One, two, three, four.
I thought he'd never leave.
Well, I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur, but I'm planning to go away. Now I am real old, don't you know? Born 10 billion years ago, but they don't love me here enough, and so I'm planning to go away. Now the children upon their lawn will wake up and wonder
where I'm gone.
Tommy Boy ne commence pas à chanter.
Mais non, mais je sais que c'est le seul moyen de te faire ouvrir les micros.
Les bébés dinosaures sont de retour. Donc, pour une émission enregistrée samedi, il y a 8 jours, mais diffusée ce dimanche, mais qui vous replonge plusieurs décennies en arrière. Enfin bref, c'est le voyage dans le temps permanent. Puisque c'est l'émission
Oula,
de Rock 70.
Tu fatigues le neurone là. Tu... Oui, Rock 70s. Mais enfin, voyage dans le temps toujours, parce que les années 70 vont de 68 à 76 dans l'univers des dinosaures. 1968 à 1976. Et les casques posent des problèmes
voilà,
d'audition.
Oui, c'est les casques de Canal Sud réagissent aux bêtises proférées par les animateurs. Donc,
oui,
quand les bébés dinosaures arrivent, crac.
Tu veux me faire taire.
Je suis coupable aussi. Et donc, ça commence déjà, oui, un petit peu à déconner. Mais bon, on va passer outre. Et
ouais.
Donc, démarrer par du gros classique. Comme,
voilà,
comme
bah écoute, avec un titre tout à fait approprié au fonctionnement de ton casque, ça s'appelle Communication Breakdown. C'est Led Zeppelin,
comment
bien sûr.
Pardon.
Oui, voilà. C'est Led Zeppelin. Alors, Led Zeppelin, c'est quand même archi classique. On a dû passer pratiquement tous les morceaux de Led Zeppelin dans cette émission. Quoique, il y a sûrement quelques-uns, si on cherchait un peu. Bon. Et. En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'il existe une archive presque infinie de pirates de Led Zeppelin. Je ne sais pas quel concert de Led Zeppelin n'a pas été piraté. Et on pioche dedans de temps en temps, comme ça, pour le plaisir. Là, c'est Led Zeppelin enregistré au printemps ou à l'été 73 à la Nouvelle-Orléans. Et donc, c'était le rappel de leur concert, une version un peu longue de Communication Breakdown.
Thank you. Shake it there. I'm in a cold sweat.
Thank you.
Voilà, voilà. Oui, oui, oui.
Maybe we'll see you next year.
C'est le public dans notre studio qui nous applaudit. Bon.
Vous trouvez les applaudissements bien timides. Vous pourriez faire un effort, les gars. Les Zeppelin live, donc. Fin de concert. Mais ils reviendront l'année prochaine, dit-il. À la Nouvelle-Orléans, donc, apparemment. Et c'était en quelle année?
73. Donc c'était après l'album, enfin il jouait pas mal de choses, l'album Houses of the Holy.
Et bien on va continuer avec un autre classique, c'est dimanche.
C'est Creedence.
C'est Creedence, bien sûr. Et on va s'écouter un extrait du même album que la semaine dernière, ou la semaine d'avant, je sais plus. Un extrait de Willie and the Poor Boys, sorti en 69. Et on avait fait remarquer... la dernière fois que Creedence, entre 68 et 70, ils ont sorti 6 albums, c'est-à-dire l'essentiel, disons, de leur œuvre, du premier album sans titre jusqu'à Pendulum. Donc tout ça s'étale sur entre 68 et 70.
Ouais, Willie and the Poor Boys est le troisième qu'ils aient sorti en 69.
Voilà, en 69, 3 albums quand même. Green River, Bayou Country, William the Poor Boys, mais en plus c'est quand même des albums énormes.
Ouais, c'est ceux où il y a Born on the Bayou, Proud Mary, Green River, ça j'ai un peu oublié, Bad Moon Rising, Down on the Corner, Fortunate Son,
pratiquement que des classiques sur chacun de ces albums. Sur
Don't
le premier,
Look Now.
le premier aussi est quand même assez fort. Le suivant, Cosmos Factory, est quand même aussi énorme. Après Pendulum, c'est un peu le début de la fin. Mais il y a quelques grands morceaux dans Pendulum, mais il est quand même moins bon. Et puis s'écoulera 2 ans avant que sorte le tout dernier, mais qui lui est beaucoup moins intéressant et qui s'appelle Mardi Gras.
Ah oui, enfin ça a été décrit comme la vengeance de Fogerty.
Oui, enfin...
Parce que les autres voulaient plus d'influence. Alors il a dit, très bien, on partage l'écriture des morceaux. Et là...
Et oui. Et puis bon, c'était quand même lui, effectivement, l'âme créatrice du groupe, c'est évident. Et donc, enfin quand même, ça reste un parcours incroyable avec... 5 albums d'affilée total qui sont autant de chefs-d'œuvre en 2 années. Et donc on revient sur l'album William the Poor Boys, on va s'écouter un morceau dont on s'écoutera après une reprise, bien sûr, parce que celui-là, tout le monde le connaît. C'est un des grands classiques de Creedence, même s'il y en a beaucoup, on l'a déjà souvent passé. Et on s'écoutera une reprise, mais pas celle de Johnny, je vous rassure tous. Fortunate Son, donc Creedence. Fortunate Son, donc Creedence en 1969.
Eh bien, on va revenir, on va avancer vers 74 avec un groupe qui s'appelait Ritz. Alors, non, c'est normal que tu ne connaisses pas. Ils ont dû faire un 45 tours, peut-être deux, je ne sais plus. Et je les ai trouvés sur une compile, une de ces compiles pirates de glam qui continue de creuser la veine de ce qu'on appelle le junk shop glam. Tous ces 45 tours qu'on trouvait dans l'équivalent britannique d'Emmaüs en fouillant au fond des caisses poussiéreuses de 45 tours et qui provenaient de l'époque entre 73 et 75 grosso modo, où un peu tout le monde essayait de faire des tubes avec beaucoup de gros rythmes de batterie, de guitare qui pétaient en tous les coins, de handclaps et des chœurs dans les aigus, bien sûr. Bon, donc Ritz. Alors, les membres du groupe ne sont pas totalement inconnus. J'ai découvert en lisant le blog de Robin Wills, l'ancien Barracuda, qui s'intéresse à ce genre de musique aussi, que le chanteur n'était nul autre que Paul Ryder. Tu veux dire Paul Ryder, pardon. Donc Paul Ryder, Ryder R-Y-D-E-R, qui est un pseudonyme, il a utilisé d'autres noms que j'oublie. Qui a été en particulier dans Paul Ryder and the Time Machine. On a dû en passer un morceau de c'était un de mes 45 tours pourris, ça, tu vois. Et donc voici un autre 45 tours pourri virtuel, celui-là. Ça s'appelle Why Love par Ritz. Love, Ritz, c'était pour vos surprises parties, parfait. Hein. Ah. Ah, c'est un petit good sweet, hein, ça c'est sûr.
Un petit peu, oui, effectivement, légèrement. C'était sur les compiles Killed by Glam alors.
Voilà, celui-là, je l'ai découvert sur la compile Killed by Glam.
Compile italienne, je crois, non ?
Alors je sais pas d'où ils sortent ceux-là, ils se vendent pas trop.
Ouais, oui. Il y a au moins 3 volumes, mais effectivement, on peut découvrir des merveilles, encore des merveilles oubliées. C'est une scène sans fond. Et ben on va rester un peu dans le glam, mais avec, disons, le glam américain, new-yorkais. qui était peut-être un peu moins stéréotypé, on va dire, que le glam britannique, avec les fameux Magic Tramps. Ce groupe totalement oublié et qui a démarré au tout début des années 70 à Los Angeles, qui ensuite a immigré vers New York et qui est devenu aussi une des attractions de la scène glam, alors glitter, proto-punk aussi quelque part, new-yorkaise. Et nos amis de Magic Tramps n'ont jamais rien sorti, n'ont jamais été signés, alors que c'était les potes de toute cette scène naissante et que tous leurs compères ont, eux, été signés et ont connu des succès, bon, un peu inégaux.
Voilà, mais enfin, il y a beaucoup de groupes dont Kiss a fait la première partie et puis ils n'ont jamais connu le succès.
Certes, mais tu vois, par exemple...
Peut-être que Kiss avait mis du poison dans leur café pour...
Les Magic Tramps ont eu comme première partie, à de nombreuses reprises, les New York Dolls. New York Dolls, c'était de grands fans, et à cette époque-là, les Magic Tramps, à New York, étaient beaucoup plus connus que les New York Dolls. Et quand les New York Dolls ont été signés, eh ben un des tout premiers concerts qu'ils ont fait en ville, ils ont invité les Magic Tramps en première partie, enfin, ils auront plus ou moins rendu à Paris. Ce que Kiss n'a peut-être pas fait avec les Brats, par exemple. Enfin, bref, c'était toute une scène où tout le monde se connaissait, où tout le monde traînait ensemble. Les Magic Tramps avaient une particularité, c'est qu'ils étaient aussi très liés à Andy Warhol et toute sa bande, la Factory, etc. Notamment dans les Magic Tramps, à une certaine époque, il y a eu un certain Eric Emerson, dont j'avais totalement oublié le nom. Apparemment, c'était une des vedettes des premiers films d'Andy Warhol. Il joue dans Heat, notamment. C'est un danseur. Il a eu une vie, malheureusement, assez courte. Il est mort en 75. On l'a retrouvé mort à côté de son vélo, dans un carrefour. Alors, on a supposé que c'était un accident, enfin, qu'il avait été renversé. Il y a eu des rumeurs qui disaient non, en fait, il est mort d'overdose, et puis il a été déposé là pour faire croire que c'était un accident. Enfin, bon, mais il semblerait que ce soit tout simplement un accident tragique, quoi. Et quand, alors c'était un copain d'Debbie Harry, de la bande de Blondie, quand il est mort, Blondie a quand même dit, enfin Debbie Harry, pardon, a quand même dit, la mort d'Eric a marqué la fin de la période glitter à New York. Donc c'était un bonhomme, pareil, dont on a un peu oublié le nom, mais qui, semble-t-il, avait une certaine importance, quoi, dans cette scène naissante là. Donc on va s'écouter les Magic Tramps, alors semble-t-il, probablement à l'époque où il y avait Eric Emerson dans le groupe, mais pas encore dans leur version vraiment glam électrique, tu sais, avec ce guitariste flamboyant là dont on a parlé la dernière fois. Ça, c'est un peu plus à la Velvet, ce morceau, en fait. D'ailleurs, il y a un petit clin d'œil à Lou Reed au début, tu vas voir. Ça s'appelle Trippin', et ça a été enregistré live... en 1973, si je me souviens bien. Alors là, il faut quand même que je vérifie. Ouais, c'est ça. Enregistré live quelque part à New York en 1973. Donc, les Magic Tramps.
Now, I would like you to take a walk on the wild side with me, Eric Emerson, and my outlaw band. Hey, let's take a trip. Yeah.
Pippin, les Magic Tramps, donc live en 73. Alors c'est tiré de la seule et unique compile qui existe au sujet de ce groupe, qui s'appelle Kicking Up Moonlight Dust, qui est sorti en 2005 et qui regroupe les seuls enregistrements qu'on ait pu récupérer. Par contre, ça va de 70 jusqu'en 75, je pense, 74-75, jusqu'à la fin du groupe. 76 même peut-être. Les Magic Tramps, donc, de New York.
Eh bien, on va continuer avec du glam, en fait. Ça, c'était pas très glam, ça, hein. C'est un petit côté velvet,
ça,
comme
c'était
tu disais.
Ça, c'était velvet, très net, oui. C'était même très
Waiting for the Man, quelque part.
Ouais. Je dirais que c'est un petit clin d'œil au velvet.
Ouais, surtout quand il introduit en disant « Let's take a walk on the wild side ». Bon, il y avait des références. Bilbo Baggins en avait aussi, avec leur nom.
C'est plein Seigneur des Anneaux.
Exactement. Et c'était un groupe de glam qui a fait... je crois qu'on est encore en 74. Je n'ai pas vérifié. Une chanson, un single qui s'appelait Saturday Night. Alors, je peux te dire, je cherchais un petit peu des renseignements là-dessus. Il doit y avoir 20 chansons qui s'appellent Saturday Night, au moins dans la base de données que j'utilise.
Ah oui, j'en vois une là déjà, des Toilet Boys par exemple.
Voilà, enfin, ceci est une fille. Et encore juste Saturday Night, hein, je ne te parle pas de Waiting for Saturday Night, Saturday Night's Alright for Fighting, et tout un tas de variations.
Ça pourrait être un thème dans le prochain Bébé Dino.
Bon. Saturday, en tout cas, oui, on peut faire une émission entière, je pense, avec Saturday, sans doute. Donc, les Bilbo Baggins, ils ont essayé de se
refaire. Jeudi, par exemple.
Ouais,
jeudi,
c'est plus dur.
Lundi, je pense qu'il y en a pour lundi.
Surtout avec la version d'une demi-heure de Stormy Monday par
Dimanche aussi, mais bon, pour les autres jours, c'est peut-être moins.
Voilà.
Pardon, je t'ai interrompu.
Où en étais-je ? On ne savait plus si
on
était samedi ou dimanche.
J'ai dit une bêtise, le casque déconne.
Bilbo Baggins, qui ont essayé de se reformer dans les années 2000, beaucoup d'années après leur truc, et leur reformation a échoué. À cause de leur nom, parce que dans les années 2000, comme c'était le Seigneur des Anneaux est devenu un film avec une puissante compagnie qui avait déposé le nom.
Ah,
les malins. Eh ben oui, donc tu peux plus utiliser les noms des personnages de Tolkien, tu te fais prendre des avocats au cul. C'est pas du tout par Tolkien, c'est par les propriétaires des droits du film.
D'accord.
Et de l'univers dérivé, tout ce que tu veux, enfin bref. Donc, Bilbo Baggins, ils ont dit non, vous n'avez pas le droit. Bon, alors, ils ont laissé tomber parce que je pense que même avec leur nom, je ne sais pas si beaucoup de gens se seraient souvenus d'eux. Mais si. Enfin, bref. Voilà, donc, à leur grande époque, vers 73 ou 14, Saturday Night.
Non mais attends, alors là, Tommy Boy, quand même, tu me mets sur le set des numéros de morceaux, il y a Saturday Night, sur le 1, et il faut passer le numéro 1. Comment veux-tu que je comprenne quelque chose ? Qu'est-ce que c'est que ce bazar ?
C'était la suite.
Ah là là, je suis désolé, ne faites comme si je n'avais rien dit, je lui ai cassé son effet, là. Il avait prévu un autre, Non mais attends, mets-toi à ma place, tu comprends, moi je veux marquer Saturday Night, je veux pas Saturday Night,
ouais,
et puis c'est pas le bon Saturday Night.
Je devrais peut-être me mettre à ta place, tu es viré.
Je me casse, je quitte le groupe.
Non, j'ai dit que t'étais viré avant.
Je quitte le groupe le premier d'abord. Bon.
Bon, donc c'était numéro 1, Saturday Night par les Brass.
Si tu continues, je raconterai des conneries sur le jingle fromage de chèvre.
Oh putain, mais tu fais jamais ça.
Je ne fais jamais ça. Bon allez, Saturday Night, alors par... parce que j'ai perdu le fil.
Bilbo Baggins.
Ah oui, c'est vrai. I'm gonna jump down, turn around, hold on tight. I'm gonna move it to the left, gonna move it to the right. Baby, let me tell you when I feel all right. When I'm bumping with my baby on a Saturday night. Yeah, Saturday night. Saturday night. Come on, baby, hold me tight. Everything's gonna be all right tonight. Saturday night. Saturday night. Saturday night. Saturday Night, donc.
Par Bilbo Baggins. Et c'était... alors, je ne sais plus si c'est eux qui l'ont écrit ou si ça a été écrit pour eux, mais enfin, ils ont été les premiers à enregistrer ce Saturday Night-là.
Eh bien, un autre groupe qui a enregistré un morceau appelé Saturday Night, les Toilet Boys. Mais ce Saturday Night, on l'avait passé dans une de nos... On l'avait sélectionné dans une de nos émissions virtuelles.
Ah ouais. Et puis il s'écrivait Saturday Night N-I-T-E. Donc il n'était pas dans la liste des trucs que j'avais trouvé parce que j'avais fait une recherche par chaîne de caractères.
D'accord, enfin quand même ça compte. Et ouais. Donc on va pas se l'écouter ce soir, on va s'en écouter. On va écouter un autre morceau des Toilet Boys que j'ai redécouvert avec plaisir. Je sais que je les adorais à l'époque, puis je les ai un peu oubliés, à vrai dire.
Ah mais je les ai vus une fois un peu par hasard à Los Angeles. Début des années 2000, ouais. Parce qu'il y avait les Streetwalking Cheetahs qui faisaient leur première partie. Et j'avais été impressionné quand même. Hein.
C'était quelque chose, hein, visuellement.
Un grand spectacle.
Ouais. Un bon spectacle. Il y a pyrotechnique, flamme.
Et puis Guy, le chanteur, qui se produisait sur scène en travelo. Alors, il y a un mot travesti ou cross-dresseur, je sais pas comment il faut dire exactement, mais en tout cas, il expliquait qu'il travaillait beaucoup la chose, qu'il passait 2 heures à se maquiller, et que attention, les mecs qui venaient le faire chier, là, après qu'il ait fait tous ses efforts, c'était des nuls. C'était très, très, très travaillé.
Il avait un physique assez androgyne, et puis il jouait pas mal sur l'imagerie gay, faut quand même le dire.
Oui.
Mais avec un certain panache, quoi. Et puis alors, ils avaient.
La musique aussi, quand même.
Oui. Ils ont une discographie un peu bizarre, quand même. Enfin, ils ont sorti un premier mi-album qui était très punk, limite hardcore par moment, avec vraiment ténueux. Et dont un morceau, d'ailleurs, qu'on s'écoutera un jour, s'appelait Paul Stanley Was a Lady. Puis ensuite, ils ont sorti alors des albums, mais qui se recoupent, tu vois. Enfin, c'est la discographie un peu compliquée. Si vous voulez un album des Toilet Boys, c'est celui qui est sans titre. Et où on voit une photo noir et blanc, alors 5 visages en noir et blanc, là, et qui compile en fait différents morceaux sortis par-ci par-là.
Parce qu'il y a eu des mini-albums, des EP, des choses comme ça.
Et donc, ça c'est un peu la compile, on y retrouve tous leurs grands morceaux. Et effectivement, il y avait un côté très turbo négro aussi dans les Toilet Boys, ils sont arrivés un tout petit peu après. Et beaucoup de. Enfin, c'était une espèce de glam, de heavy glam, très flamboyant. Quoi. On va s'écouter un de leurs grands morceaux. Ça s'appelle Ride. Et c'est donc les Toilet Boys. Alors, je sais plus, c'était à la fin des années 90, début des années 2000, je sais plus trop.
Cet album.
Ouais, je sais plus, je vérifierai. Enfin, c'est marqué, mais 2000 et quelques, ouais. Début 2000, je pense. Ride, donc, les Toilet Boys, c'était des Américains. Hein. Drive! peu aussi un côté stadium rock dans les Toilet Boys. Mmh. Ce côté, on fait des morceaux pour faire brailler le public, etc. Ils se sont reformés.
Ouais.
Ah ouais. Mmh. Et on voit quelques vidéos là, sur YouTube assez récentes. Bon, évidemment,
ils ont vieilli. Pour faire le genre de show qu'il faut, il faut avoir la santé quand même.
Voilà, écoute, ça tient toujours la route, mais c'est pas. Il y a des images de shows plus anciens qui sont quand même plus percutants.
Mmh. Eh bien, écoute, on va se réécouter Saturday Night, le même, repris par les Bratz.
Oh, quelle surprise qui... J'avais oublié, oui, que les Bratz avaient repris. Oh, ben mince alors, ça.
Et oui, ça surprend un peu quand on. Tu vois, les Bratz sont entre pré-punk à la New York Dolls et glam un peu plus, comment dire, commercial. Alors là, c'est le versant complètement commercial, parce que Saturday Night, hein, c'est le genre de morceau qui a visiblement été écrit pour être joué dans les surprises parties, tu vois. Un petit peu le côté rock'n'roll revival pour faire danser. Bon.
Effectivement, il y a deux aspects très différents dans le discours infidèle des Bratz. J'ai l'impression que c'est suivant qui est Rick Rivets.
C'est avec Rick Rivets, justement. Ah ouais, c'est dans la compile Criminal Guitar, qui a priori est l'époque Rivets.
Voilà. Il y a un ou deux morceaux dans Criminal Guitar qu'on retrouve sur l'album Rock Candy, qui, dans l'album perdu, jamais sorti, enregistré soi-disant en 75, qui lui aurait été enregistré sans Rick Rivets. C'est un peu compliqué.
Voilà, donc les Bratz, une version qui doit être live parce qu'au début de Saturday Night.
Ladies and gentlemen, for New Year's Eve. He's already high. Here comes the frat. Okay. Gonna jump down, turn around, pull on tight.
voilà, finalement, c'est un peu la même chose que New York Dolls quand même, c'est-à-dire le recyclage trash de classique du pop. Sauf que ça, c'était pas un classique, parce que Bilbo Baggins... Hein,
oui, oui, c'est curieux qu'ils aient eu l'idée de reprendre ce morceau, qui avait peut-être eu un petit succès par là-bas, je sais pas.
Et ben ouais, c'était un groupe... Bilbo Baggins, ça, j'ai pas vérifié. Je pense que c'était un groupe anglais, mais je dis peut-être une connerie là. Et donc peut-être qu'ils les connaissaient parce que c'était un groupe américain. En tout cas, les Bratz avaient aussi fait un tour en Angleterre, si je me souviens bien.
Oui, et puis donc, ils s'intéressaient, j'imagine, à la scène glam, quoi. C'est des trucs qui sont totalement obscurs pour nous, mais qui peut-être à l'époque, dans certains cercles, disons, tournaient pas mal, j'imagine.
En tout cas, c'est une reprise bien énergique et bien sympathique.
Bon, ben on va se calmer un peu quand même, parce que depuis le début, je trouve que ça envoie un peu le bois. Et on va s'écouter un petit morceau de Pierre Vassiliou, l'album sans titre de 76, qui était quand même son 7e album. C'était 2 ans après Qui c'est celui-là, et l'énorme succès de ce 45 tours et de l'album du même nom. Excellent album d'ailleurs. Et alors là, ça avait un peu changé de registre. Là, Pierre Vassiliou, sur ce disque, il y a assez peu de morceaux, ils sont très longs. Et très planant, très introspectif, on va dire. C'est une ambiance très différente, tu vas voir. Le morceau s'appelle « Alentour de lune ». Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir aux alentours de la lune? Alors ça...
Lundi, 23 décembre 1975. Au-delà des étoiles, alentour de lune, je connais une planète, je connais une planète où tout le monde est bête. Les êtres y sont méchants, corrompus et violents. Si l'amour n'a plus cours, les armes tordent nuit et jour, dans tous les pays à la fois. C'est la terre, son nom, je crois. Au-delà des transports, au-delà des morts, je connais une terre, je connais une terre où tout le monde meurt. Les hommes s'allongent par grappes au milieu des boulevards. Ils ne claquent pas les dents, ils mordent de la mort jusqu'au sang. Ça les délivre du mal, ça les soulage de la peur. De leur peur. Au-delà du mystère, je connais une planète, je connais une planète où tout le monde est heureux. Les êtres y vivent nus, on ne se parle plus, d'ailleurs on ne sait jamais parler. Tout se passe par les yeux, tout se passe par la pensée, et tout là-bas. Au-delà, c'est chez moi, c'est chez moi, c'est chez moi. Thank you.
Alentour de lune. Ah, c'est un univers étrange, hein, celui de Pervasivu.
Ah oui. Ouais.
Il y a beaucoup de morceaux comme ça, quand même très très curieux et souvent intéressants à mon goût en tout cas. Donc en 76, sur son 7e album qui s'appelle Pervasivu tout simplement.
Très bien. Eh bien écoute, on va se réécouter un peu d'une autre artiste qui doit être un peu contemporaine, un peu plus jeune que Pervasivu, mais qui était active à la même époque. Fabienne Shine. Fabienne Shine, quand même.
Bon, le lien n'est pas évident à tisser entre les
non,
deux. Mais...
Non, non. Ah ouais, non, mais en 75, Shakin' Street devait s'appelait pas encore Shakin' Street, sûrement, mais si ça se trouve, ils avaient commencé à jouer, à répéter. Je sais pas, leur premier, le premier concert, ils se sont appelés Shakin' Street de façon célèbre. C'était en août 76 à Mont-de-Marsan, dans les arènes. Leur nom leur ayant été donné juste avant qu'ils montent sur scène par Marc Zermati. Il s'appelait les Speedballs avant. Et donc Fabienne Shine est toujours active, force le respect quand même. Hein. Et donc a fait cet album, elle en a fait plein, mais celui-ci qui s'appelle Don't Tell Me How to Shake It date de 2018 et a été produit, mixé, etc. Par. Peut-être pas produit officiellement, mais en tout cas mixé et ingénieré par Freddy Katz, qui joue aussi de la guitare et de la basse sur l'album, donc, et qui co-écrit un certain nombre de morceaux. Donc on peut penser qu'il a un rôle important dans l'histoire, et justement il est le co-auteur de ce morceau qu'on va s'écouter qui s'appelle « The World and Me ».
Thank you.
Voilà, Fabienne Shine, The World and Me, de tirer l'album Don't Tell Me How to Shake It.
Eh bien, de Fabienne Shine à Brigitte Fontaine, il n'y a quand même pas. Alors, on peut trouver des points communs, leur longévité, leur indépendance, leur caractère bien trempé.
Ouais, sûrement.
Et oui, c'était, bon, Brigitte Fontaine, c'est un phénomène quand même. Hein.
Oui, ah, ça c'est sûr.
Bon, elle a été longtemps une espèce de chanteuse underground, complètement allumée, avec un réseau de fans, un noyau de fans quand même peu nombreux, mais très très...
J'ai un peu l'impression qu'elle était quand même plus connue dans les années 70 que maintenant. Ariski et Fontaine, on en entendait parler, quoi. Ou alors peut-être que... C'était alors, le réseau des MJC ou des choses
comme
ça. Oui,
c'est tout ça. Bon, moi, j'étais encore parce que, trop jeune, en tout cas, au début des années 70, quand elle a commencé à être un peu connue pour savoir quel était son écho, disons, dans le monde musical de l'époque. Mais elle a quand même connu une espèce de retour en grâce dans les années 2000, on va dire un peu après même. Et où on commençait à l'avoir beaucoup dans les médias, mais un petit peu comme un personnage, une curiosité, quoi, l'allumer, qui une, vient faire...
Une sorte de vieille sagesse, comme on dit un vieux sage, si tu veux.
Oui.
Quel est le féminin de vieux sage? Je ne sais pas. Mais ça fait bizarre quand on essaie de mettre au féminin. Mais tu vois, quelqu'un qui est une ancienne, presque une sorcière qui donne des conseils. Tu vois.
Voilà, une sorte de survivante.
Sorcière au sens positif, hein, bien sûr que les sorcières sont réhabilitées maintenant.
Son dernier album a eu beaucoup de succès, hein, et a risqué toujours dans le coup. Hein.
Mmh. Ah ouais?
Ah ouais, il co-écrit une bonne partie des morceaux. Je pense qu'il est là aux instruments, la production aussi sans doute. Mmh. Et un de ses tubes du dernier album, J'irai pas, passe beaucoup à la radio sur les ondes nationales. Hein. Et bon, je pense qu'à l'époque, quand même, dans les années 70, le succès était peut-être plus réservé à un certain cercle.
Ah non, c'est pas quelque chose qu'on entendait à la radio, mais j'en entendais parler, je pense. Voilà.
Bah après, oui, c'était. Étonnant, parce que le duo Ariski-Fontaine, leur production, enfin bon, il y a un côté, c'était très théâtral aussi, c'était très avant-garde, c'était très, très allumé. Et il y a beaucoup de vidéos qui traînent là, ça vaut vraiment le coup d'y jeter un œil. On va s'écouter un extrait de son deuxième album qui est paru en 68, si je me souviens bien, sur Sarava déjà, c'était un peu les débuts, je crois, de Sarava, le label qui accompagnait Brigitte Fontaine, Ariski et Higelin à leur début. L'album s'appelait Brigitte Fontaine et, point de suspension, Folle. Et le morceau, je crois qu'il figure sur un Wiz.
Ah oui, il y a un morceau de Brigitte Fontaine sur un Wiz. Voilà. C'est celui où elle dit « je n'aime pas », etc.
Je suis inadapté. Ça doit être celui-là, oui, je suis inadapté, Brigitte Fontaine, donc, en 68.
Je n'aime pas beaucoup la cervelle en été, salissant les pare-brises. Je n'aime pas les nouveau-nés trop entêtés, à garder les yeux clos. Il faut les leur ouvrir de force à coups de rasoir. Je ne supporte pas les enterrés vivants. Je n'aime pas les bonzes qui s'envoient en l'air alors qu'il y a des millions de voitures sans carburant. Je suis inadapté. Je n'aime pas beaucoup les corps privés de tête, ni les chats crucifiés. Je supporte très mal les morts et les blessés, susceptibilité. Je déteste les gens qu'on recouvre de miel et qu'on attache sous le soleil à midi. Pourtant c'est bien normal, il faut que les fourmis bouffent. Mais c'est plus fort que moi, il faut que je voie le mal partout. Je suis inadapté. Je n'aime pas les gens dont la gorge est tranchée et les yeux arrachés, ni les femmes qu'on jette à la mer dans un sac avec un chat vivant. Je suis contre tous ceux qui descendent au tombeau. je n'aime pas les gens à qui on a coupé les jambes et les bras pour leur apprendre à vivre. Ils ont sur la bouche un rire idiot, y a pas de quoi rire. Je suis inadaptée. Je suis inadaptée.
Et voilà, Brigitte Fontaine n'aimait pas toutes les horreurs qu'on peut, qu'on peut voir sur la planète. Un catalogue d'horreurs intitulé « Je suis inadapté »
par ouais.
Brigitte Fontaine. Après, il y a un message dessous, hein, peut-être que...
Ah bah, c'est clair, oui.
Et c'était souvent, effectivement, leur marque de fabrique à tous les deux, là, de balancer des choses assez... assez rentre dedans sous une forme totalement imprévisible, on va dire. Donc en 68, son album Brigitte Fontaine est folle.
Honnêtement, moi, rentre dedans, mais rigolo quand même. Christophe, avec mon 45 tours pourri de la soirée, celui-ci porte un titre, alors c'est une face B, hein, qui porte un titre qu'on n'associerait pas trop à Christophe, ça s'appelle « Méchamment rock'n'roll ».
Il a pu l'être sur certains...
De temps en temps, voilà.
Et puis tu sais que dans les Paradis perdus, un de ces grands morceaux, qui n'est pas forcément rock'n'roll au sens propre, mais il cite tout un tas de vieux rock'n'roll qui ont bercé son enfance.
Voilà. Bon, alors là, c'est pas lui qui cite ou qui dit, parce que je pense que les paroles sont de Alain Kahn, hein, le morceau est coécrit.
Oui, son beau-frère.
Voilà. Qui... Et donc, voilà, c'est un... C'est paru en 85, et c'est la face B de l'eau. J'ai oublié de quoi c'était la face B, mais c'est pas bien grave.
Mystère et suspense, j'aimerais bien jouer l'amant. Cette poupée, série noire, au valseur, alléchant, sensuel, censuré, carrosserie, platinée. Ouh, choubidou, ouh, ouh. Ouh, méchamment rock'n'roll. Dans sa buie, elle module. Question film, pas terrible. Mais la star, quel ravage. J'irais bien faire le tour. Son côté sexe à pile. Ouh, choubidou, ouh, ouh. Ouh, méchamment rock'n'roll. Rock and roll.
Voilà, la face B de Ne raccroche pas, en 85, par Christophe.
Méchamment rock'n'roll, oui, enfin, relativement, mais avec quand même Patrice Tison à la guitare.
Voilà, il y a de belles envolées de guitare.
Ah, oui, oui.
Et puis un texte, genre un petit peu macho roulant les mécaniques. Très parodique, finalement.
Ah, il avait du talent quand même, Alain Camp, oui. Christophe lui avait. C'est un peu pour le sortir de sa mouise qui lui avait laissé faire écrire quelques textes pour son album. Ça lui avait fait un peu d'argent, quoi, parce qu'à cette époque-là, Alain Camp était un peu dans la panade. Et il a disparu quelques années plus tard, comme chacun sait. On avait beaucoup parlé de lui. Il y avait une réédition d'un des albums solo d'Alain Camp. Et j'attends avec impatience la réédition des autres, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air de venir. Là.
Peut-être que la première s'est tellement mal vendue.
Ah oui, mais pourtant, je suis sûr qu'il y a des gens qui seraient intéressés quand même. Ils ont réédité, heureusement qu'en France, on ne se drogue pas. Mais on attend.
Voilà,
et Gary Cooper s'éloigna dans le désert.
Tu comprends bien que heureusement qu'en France, on ne se drogue pas, un titre qui peut attirer quelques ventes.
Mais c'est ça, c'est, oui, peut-être.
Gary Cooper et compagnie, là, c'est plus dur. Hein. Vous êtes déjà d'une autre génération. C'est...
Il y a eu une bio d'Alain Camp aussi, paru il y a quelques années, relativement récemment.
Voilà.
Et bon.
Voilà, Alain Camp a encore besoin d'aide. Il lui faut un aide de camp.
Oui, bon, alors il vaut mieux couper court, sinon mon casque va encore exploser. Et donc, on va s'écouter la reprise qui était promise tout à l'heure de Fortunate Son par Al Perry and the Cattle.
Ah oui, Al Perry and the Cattle, des mecs de Tucson, Arizona.
Tucson, c'est ça, un gars qui a joué dans Fish Karma par la suite, qui faisait une espèce de garage blues, parfois un peu country même, très allumé.
Fish Karma.
Oui.
Oui, oh bah c'était en fait surtout des textes totalement délirants, et à pisser de rire.
Al Perry and the Cattle est un petit peu dans la même lignée. Je pense que Fish Karma est arrivé après. Al Perry a fait aussi des trucs en solo, enfin bon, il a eu une discographie assez longue, mais c'était tout ça se passait surtout dans les années 80-90. Je sais pas trop ce qu'il est devenu.
Ouais, Fish Karma, il y a un grand morceau d'eux qu'on a passé au Bébé Dinosaure sans doute au moins deux fois, c'est She Likes to Make Love to Led Zeppelin.
Mais là, tu vas voir que c'est une reprise de Fortunate Son relativement personnelle quand même. Donc, Al Perry and the Cattle, c'est sur la compile parue. Alors là, c'était, j'ai l'année quelque part là, mais je la vois pas sur le disque. C'était sur Rubber Rabbit Records et Pravda Records. Pravda, c'était un label qu'on aimait bien, là, notamment avec les New Duncan Imperials et puis ce genre de choses. Et la compile s'appelait Wrote a Song for Everyone. Et apparemment, Fogerty a sorti un album du même nom, bien des années plus tard. Un album où il est accompagné par tout un tas de stars. Un album relativement récent qui s'appelle Wrote a Song for Everyone.
Mais il n'avait pas fait un morceau qui s'appelait comme ça, non?
C'est peut-être tiré d'un de ses morceaux, mais alors...
Pas un des plus connus, alors.
Oui, pas un des plus connus, puis je ne sais plus trop sur quel. Il faudrait que je réexplore la carrière solo de Fogerty, qui est un peu... avec des hauts et des bas, on va dire. Mais il a sorti un album de ce titre plus tard. Enfin, il n'y a pas très très longtemps, finalement, avec beaucoup d'invités. Là, c'est donc le titre d'un hommage à Fogerty. Et on va s'écouter donc cette version de Fortunate Son par Al Perry and the Cattle.
Born made to raise a flag, and they are red, white, and blue.
Oui, donc je vous ai dit, hein, je l'ai prévenu, une version un peu personnelle de Fortunate Son par Al Perry and the Cattle sur la compile Write a Song for Everyone.
Alors on va imaginer la réponse de John Fogerty et on va se passer un morceau de Boxer qui s'appelle Why Pick on Me.
Somebody
Devil Woman, à ne pas confondre avec Dirty Woman, qui s'enregistreront beaucoup plus tard. Evil Woman, le premier 45 tours de Black Sabbath.
Evil Woman, Don't You Play Your Games With
Me.
Parce qu'il y a un autre morceau qui s'appelle Evil Woman tout court, d'un certain Weiss, qui a été alors repris par Spooky Tooth, mais par d'autres gens aussi.
D'accord.
On l'avait passé.
45 tours sortis avant le premier album, semble-t-il. Avec Wicked World en face B. Et donc, il existait au moins deux versions de l'album. L'une avec Evil Woman pour l'Europe, c'est ça ?
Ouais. Et l'autre avec Wicked World pour les États-Unis, parce qu'au départ, Evil Woman Don't You Play Your Games With Me était un morceau du groupe Crow, le Corbeau, un groupe américain de rock, vaguement country rock. Et on l'a passé, la version d'origine. Et qui, donc, ils ont dû se dire ça ferait double emploi sur le marché américain. Et ils ne l'ont pas mis.
D'accord. Bon, on s'écoutera Wicked World une autre fois.
Tu sais que ce morceau a été aussi repris par Ike et Tina Turner.
Ah.
Sous le titre Evil Man, bien sûr. Evil Man, c'est... Don't You Play Your Games With Me.
C'est... échappé, ça.
On l'a passé aussi.
Ah, oui,
ah ben c'est difficile de se souvenir.
Au bout de 30 ans.
Au bout d'un moment, le neurone sature. Il faut effacer un peu le disque dur. Ça,
enfin, moi, j'efface d'une semaine à l'autre, quoi, en fait. Tu vois, c'est... Comment s'appelle l'émission déjà?
Alors attends, ça a quelque chose à voir avec les facochères.
Les vieux facochères.
Non.
Les papy brontosaures.
Les alvins primitifs.
Vous écoutez la radio.
Voilà. La semaine prochaine, on fêtera le 30e anniversaire. On essaiera de remettre les pendules à l'heure.
Oui,
mais
ça va durer.
Black Sabbath, un jour, a été décrit par un critique comme ce groupe est comme une pendule arrêtée. Ils marquent l'heure juste deux fois par jour, mais...
Oh, c'est un peu sévère, quand même.
Bien, où en étais-je ? Merde, j'ai rien calé.
Bon, bah écoute, alors attends, on va faire un truc, ça t'en passera deux pour finir, si tu es d'accord. On va se faire la rubrique Digit, vite fait. Donc, la rubrique Digit, c'est pour passer des morceaux qu'on aurait pu passer dans l'émission Digit, qui malheureusement n'existe plus, et qui avait des liens évidemment avec les bébés dinosaures, hein, puisque les bébés dinosaures, c'est un petit peu, c'était l'émission sœur, un peu débraillée, chevelue et boutonneuse, de Digit, qui était une émission beaucoup plus respectable, animée par Gilda, bien sûr. Et à laquelle nous participions. Et donc, dans Digit, je suis sûr qu'on aurait bien aimé passer ce bonhomme qui s'appelle Frank Hurricane. Alors, on l'a déjà écouté dans Les Bébés Dinosaures. Ah tiens, le nom m'est revenu. Dans Les Bébés Dinosaures, on l'a écouté en rubrique folk, parce que ce qu'il fait quand même, c'est une espèce de néo-folk, là, folk blues. Très prenant quand même, je trouve. Mais de temps en temps, il se lâche un peu. Il a des morceaux un petit peu plus musclés. Et sur son dernier album, alors là c'est sous le nom de Frank and the Hurricanes, son dernier album Love Ya, 2020, sorti donc l'an dernier, il y a un morceau un petit peu plus musclé, là, un peu bizarre, un peu très prenant lui aussi, qu'on aurait sûrement beaucoup passé au bébé à Digit. Ça s'appelle I Know I'll See a Ghost. C'est donc Frank and the Hurricanes sur son dernier album.
I see a ghost. Provide you.
I know I'll see a ghost. Donc, Frank and the Hurricanes.
Bon sang, j'ai vu le fantôme de notre émission.
Oh, ça, il y en a souvent des fantômes, voilà, chez nous.
Les bébés dinosaures, c'est comme dans un vieux Bob Moran, là, les dinosaures qui avancent dans le brouillard. Blum, blum, tu sais pas si c'est vrai ou si c'est une hallucination. Les bébés dinosaures fêtent leurs 30 ans la semaine prochaine. Donc, on fera une émission un peu plus longue. Soyez à l'écoute. Et on devrait passer normalement, donc, la semaine prochaine, c'est le dimanche. 21 mars, hein, quelque chose comme ça, c'est-à-dire que là on est, non, c'est très le dimanche, ah merde, nous sommes en ce moment le dimanche 14 mars.
Oui, enfin, plus ou moins.
Ouais, si, tu vois, il faut y croire, il faut faire le séminaire de motivation, là. Nos auditeurs nous écoutent le dimanche 14 mars, en tout cas, on l'espère. Et donc, c'est le dimanche 21 mars, le premier jour du printemps, ou peut-être le deuxième jour du printemps, que nous fêterons les 30 ans des bébés dinosaures qui avaient commencé sur une autre station, Radio Éphémère, le 17 mars 1991.
Eh voilà. Oui. Mmh.
Et donc,
on s'en souvient, l'émission avait été interrompue par l'alarme.
Oui, c'était, oui, comment dire, n'est-ce pas, des débuts modestes pour une carrière prestigieuse. Modeste mais prometteur.
Il y a 40 minutes d'émission, on a encore, voilà.
Encore la programmation.
Ouais, ouais, ouais.
On n'enregistrait pas à l'époque. Donc le 21 mars à 20h. Hein, le 21 mars à 20h, exceptionnellement, on fera une émission qui durera 3 heures, où il y aura quelques invités. Et puis voilà, on essaiera de marquer les grandes étapes des dinosaures. Bien sûr, une de ces grandes étapes a été la création de la rubrique fromage de chèvre.
Oui, certes. Et donc, tu dis ça pour que je lance le jingle, je suppose. Allez.
Tu es arrivé, hein?
Oui, non. Aujourd'hui, pas de bêtises. Je ne parle pas sur le jingle, c'est promis.
Mais tu as le droit de danser avec tes sabots.
T'as vu, c'est toi là qui parle sur le jingle. Hein? Ah, les sœurs Gwedec et Los Gonococos tous les dimanches, quand même. C'est un beau cadeau que nous faisons aux auditeurs.
Tant qu'Yves Frémion ne nous envoie pas ses avocats, c'est bon.
Pour les sœurs Gwedec, on s'est arrangé.
Ouais.
À grand coup de lambic.
Avec la succession. On va s'écouter René Werner aujourd'hui. René Werner, qui est violoniste, qui avait été dans YS, Y-S, un groupe de folk franco-breton des années 70, et puis qui, vers 78, je crois, a fait cet album... qui s'appelait, alors avec un groupe qui l'appelait L'Oiseau de Plume, je crois, ou L'Habit de Plume, tu dois avoir la couverture, c'est un peu compliqué à lire.
L'Habit de Plume,
voilà. L'album s'appelle Écoutez tous, pauvres et riches, du titre d'une chanson ancienne. Et donc c'est un mélange de trad et de musique ancienne, disons, de musique un peu baroque, des choses comme ça. Bon, c'est plus trad que musique baroque, et puis c'est un petit côté folk rock aussi, quand même. Hein, et on va donc s'écouter un truc là qui penche plus, si je me souviens bien, vers le côté baroque. Ça s'appelle « Allemande du duc de Brunswick ».
Thank you.
Et voilà, si Harmonia Mundi avait ouvert un sous-label de baroque psychédélique, René Werner aurait été parfait pour... Mais bon, ça n'a pas été le cas.
Oui, c'est assez curieux. Hein. C'est un violoniste, visiblement.
Oui.
Eh bien, dis donc. Bon, ben, écoute, les annonces finales.
Eh bien, les Bébéniosaures, c'est tous les dimanches soirs, normalement de 21h30 jusqu'à 23h sur le 92.2 de Radio Canal Sud, 92.2 MHz, ou bien sûr partout dans le monde, on peut écouter Canal Sud sur www.canalsud.net. Les Bébéniosaures sont rediffusés les lundis de 15h30 à 17h. Alors pour l'émission anniversaire, ça va être plus difficile. On verra ce qu'on fera. Peut-être il faudra la diviser en deux. Et bon, le 21 mars, vous devriez avoir une émission de 3 heures qui, elle, commencera à 20h et se terminera toujours à 23h. Sinon, de toute façon, si jamais vous ratez les rendez-vous avec les Bébés Dinosaures à l'antenne, ne vous inquiétez pas, si vous allez sur le site de Canal Sud, voire même sur la page Facebook des Bébés Dinosaures, vaut mieux le site de Canal Sud, www.canalsud.net. Vous pouvez y retrouver d'abondantes archives en MP3, hein, des différentes émissions passées. Vous pouvez explorer, les récupérer, les télécharger, les écouter en streaming, tout ce que vous voulez.
Quelques centaines de...
450 environ.
450
émissions, donc
ça fait... 700 heures.
Ouais, par là. Ouais.
Bah voilà, si vraiment vous ne savez pas quoi faire... 700 heures des Bébés Dinosaures d'affilée, t'imagines ?
On ne rembourse pas la consultation de psychiatre. Hein.
Parce qu'à mon avis, il y en aura besoin quand même après. Et donc, on se dit à la semaine prochaine alors.
Et à la semaine prochaine, bien sûr.
Et on vous laisse avec le jingle de fin, puis sans doute les bandes d'animation de Canal Sud.
Never really gone.
No.
Never really gone.
He's